Et messieurs, bienvenue à tous, merci d'être là cette semaine, merci de nous écouter, bienvenue à la critique de Yugi, je suis moi-même Yugi, votre animateur, votre critique personnalisée, vous êtes chanceux, pas tout le monde que ça, merci d'être là cette semaine, capsule express, nous étions dans une thématique Saint-Valentin, dans une thématique film d'amour. Mais nous sommes aujourd'hui le 21 février, la Saint-Valentin est finie et j'ai donc décidé que cette thématique était terminée. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Donc voilà, aucun film d'amour cette semaine à vous présenter. Mais avant d'aller plus loin, vous êtes sur une plateforme numérique, Spotify, Apple Pod, Google, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a un petit bouton. Ça s'appelle télécharger. Cliquez dessus. Ou sinon, il y a un autre petit bouton qui s'appelle abonner. Clique dessus aussi. Puis, si jamais tu vois aucun de ces boutons-là, mais que tu vois un rating d'étoiles, donne-nous des étoiles. L'un ou l'autre, fais quelque chose. Clique sur un de ces trois-là. Si c'est pas fait, fais-le maintenant. Si c'est fait, merci. C'est super apprécié. Vous nous aidez grandement à aller chercher davantage d'auditeurs en faisant ça. Donc, un gros merci si vous le faites. C'est super apprécié. Donc, je disais donc, Capsule Express cette semaine, pas thématique Saint-Valentin, c'est fini. On est le fin 21 février. Bye bye. On passe à autre chose. Je suis donc allé voir un tout dernier film au cinéma de la série Marvel, donc du MCU. Nouveau film qui commence la cinquième phase. Oui, oui, nous en sommes rendus à la cinquième phase, la quatrième étant principalement toutes les séries Marvel qu'on a retrouvées sur Disney+. Ajoutez à ça des films comme Black Widow, comme Thor Love and Thunder, comme The Eternals, comme Shang-Chi. Et ce type de films qui sont sortis durant la phase 4, qui n'ont pas vraiment rien amené, mais qui étaient là pour nous présenter tout plein de nouveaux personnages. Donc, le film que je suis allé voir commence la nouvelle phase, la phase 5. Je parle du film Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Demandez-moi pas de le traduire en français, s'il vous plaît. Film, donc, de 2023, d'une durée de 2h05 qui se trouve présentement en salle. Je vais commencer tout de suite par les notes des sites parce que ça va peut-être vous donner une petite idée d'où je peux m'en aller avec ma critique. Sur IMDb, le film est noté 6.6 sur 10. C'est quand même bien. C'est pas énorme, mais c'est rare que sur IMDb, les films de Marvel sont vraiment très très élevés. Et 6.10 sur quand même 43 000 et plus commentaires et notes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu le film et qui ont décidé d'aller donner une note. Sur Rotten Tomatoes, avant même que le film sorte, il était noté 56%. Ce qui veut dire qu'avant même que le film sorte, il était le deuxième pire film de Marvel noté sur Rotten Tomatoes, le premier étant The Eternals. Erk. Le film est ensuite sorti à l'écran et l'audience a parlé. On a un rating 5000 et plus votes sur Rotten Tomatoes au niveau de l'audience pour une note de 84%. Donc, l'audience a vraiment beaucoup, beaucoup plus apprécié que la critique. Au moment où je vous parle, la critique est descendue à 47% sur 309 reviews, ce qui fait de Ant-Man and the Wasp Quantumania, aux yeux des critiques de Rotten Tomatoes, le pire film du MCU, ce qui veut dire qu'il serait pire que The Eternals. Et c'est à ce moment-ci que j'embarque, car je ne suis pas du tout d'accord avec les critiques de Rotten Tomatoes. Je suis allé voir certains de ces commentaires et la majorité des critiques disent que c'est du réchauffé, c'est encore un film de super-héros, c'est un écran vert tout le long du film. Oui, absolument, c'est en effet encore un film de super-héros. C'est un film qui se passe devant un écran vert, ça se passe dans le Quantum Realm. Hey guys, le Quantum Realm, là, il existe pas! Fait que comment tu veux qu'il tourne un film dans le Quantum Realm s'il n'existe pas? C'est sûr que ça va être derrière devant un écran vert. À quoi est-ce que vous vous attendiez? Bref, c'est la critique qui a parlé, c'est la majorité des commentaires qui sont revenus. Laissez-moi vous parler de ma critique maintenant, moi qui suis un grand fan du MCU. Est-ce que j'ai plus aimé ça que The Eternals? Absolument! Est-ce que j'ai plus aimé ça que d'autres films du MCU? Tout à fait! Okay? Donc, on va commencer par la réalisation. C'est réalisé par Peyton Reed. C'est le même réalisateur que les deux films précédents de Ant-Man. Il a également réalisé le film Yes Man, qui mettait en vedette de Jim Carrey, ainsi que l'excellent film Bring It On, un film de cheerleaders. Hein? En gros, c'est ça. Mais c'était quand même pas si mauvais comme film. Donc, très bon réalisateur à la barre de ce film. Ça a été écrit par Jeff Loveness. Jeff Loveness qui n'a pas du tout écrit pour Marvel encore à ce jour. C'était son tout premier scénario qu'il sortait. Et je regardais le parcours de Jeff Loveness. Il n'a pas écrit grand-chose en matière de série télé et en matière de film. C'est principalement un écrivain de spectacle. Il a écrit plusieurs trucs pour les Emmy Awards aux États-Unis. Il a écrit également des trucs pour les Oscars. C'est l'un des écrivains principaux du show Jimmy Kimmel Live, qui est quand même un talk show particulièrement très drôle. Et il a écrit quelques épisodes de la série animée Rick and Morty. Donc, premier scénario pour Jeff Loveness, en tout cas, du moins, premier scénario notoire pour Jeff Loveness. Et il se lance avec le MCU. Et je crois qu'il a quand même fait un bon travail. On reconnaît dans le film l'humour qu'on peut retrouver dans un talk show. Ça met en vedette, encore une fois, l'immortel Paul Rudd. Honnêtement, si vous regardez ce que Paul Rudd a fait il y a 20 ans, avec ce qu'il fait aujourd'hui, l'acteur n'a pas changé. Il vieillit pas, cet acteur-là. Bref, Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, qui est Ant-Man. Si par hasard, vous ne connaissez pas Paul Rudd, il a joué dans le dernier film Chip and Dale Rescue Rangers, qui était le live action sur Disney+. Il a joué dans Ghostbusters Afterlife. Il a joué dans la série Anchorman. Il a joué dans la série Friends. Il a joué dans le film Clueless avec Alyssa Silverstone. Bref, c'est Paul Rudd. Vous le connaissez maintenant. Ça m'a peut-être également Evangeline Lilly, qui joue le rôle de Hope Van Dyne ou The Wasp. Elle, on l'a vu principalement dans la série Lost, ainsi que dans les films de Hobbit. On voit également Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. J'ai aucunement besoin de vous dire qui sont Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. Ok, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas c'est qui, sortez de chez vous. Écoutez à la télé, écoutez des films. Culturez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Michael Douglas qui joue l'original, le Ant-Man original, donc Hank Pym. Et Michelle Pfeiffer qui joue sa femme, qui joue la mère de Hope Van Dyne. C'était l'original Wasp également. Donc voilà, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. Ça met en vedette une nouvelle actrice, Catherine Newton, qui joue le rôle de Cassie. Cassie qui est la fille de Scott Lang, qui est jouée par Paul Rudd. Ce n'est pas la même actrice qui jouait Cassie dans le dernier film, et encore moins l'actrice qu'il jouait dans le premier, parce qu'elle c'était une très jeune enfant dans le premier Ant-Man. Donc Catherine Newton, elle, on l'a vu dans la série Big Little Lies. Elle avait un rôle également dans Pokémon Detective Pikachu et elle a joué quand même un rôle important dans la série Supernatural. Pour les fans de Supernatural, c'est elle qui jouait Claire, je ne me souviens plus du nom de famille, mais bref, quand même un personnage important dans la série Supernatural. Donc, Catherine Newton qui joue le rôle de Cassie et on introduit également Jonathan Majors qu'on a vu dans les derniers épisodes de la série Loki, qui se trouve également sur Disney+, donc la série Marvel sur le personnage de Loki. On l'a vu dans d'autres films également, mais c'est des films très, très, très indépendants. C'est son premier vraiment méga gros rôle hollywoodien, Jonathan Majors, dans le rôle de Kang le Conquérant, qui est le tout nouveau gros méchant du MCU. On a eu Thanos dans la phase 2, légèrement introduit dans la phase 1, beaucoup plus présent dans la phase 2, c'était le Big Bad de la phase 3. La phase 4 a commencé, après la phase 3, après Endgame, Thanos est disparu, la phase 4 a embarqué avec toutes les séries télé qu'on a eues, tous les films boboches qu'on a eues également. Et là, ben, on embarque avec une nouvelle phase, avec un nouveau méchant, Jonathan Majors, Kang le Conquérant. Les acteurs jouent bien leur rôle. Ils ont bien repris le rôle de Ant-Man. Si vous avez aimé Ant-Man 1, si vous avez aimé Ant-Man and the Wasp, si vous avez aimé les acteurs et leur jeu d'acteurs, c'est la même chose. Il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. C'est la même formule. Beaucoup d'action, beaucoup de comédie également. J'irais peut-être même un petit peu moins de comédie que les prédécesseurs. C'est d'autres commentaires au niveau des critiques que j'ai lus. Les critiques s'attendaient à rire, à un petit peu de folie, comme on le voyait dans les deux premiers films. Un petit peu moins à ce niveau-là. À ce niveau-là, on dirait que le film est un petit peu plus sérieux, même s'il y a quand même énormément d'humour. Catherine Newton, à mon avis, fait un excellent travail dans le nouveau personnage de Cassie. Je pense qu'on va la revoir régulièrement dans le futur du MCU. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cassie. Et Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Le film est fait pour nous introduire principalement le méchant. Donc ça nous introduit Kang le Conquérant et tout ce qui lui entoure. Faut voir le film, je ne veux rien divulgâcher, mais faut voir le film pour comprendre tout ce qui entoure ce méchant-là. Mais le film est surtout basé là-dessus. Donc, grosso modo, l'histoire du film, on a Cassie, justement, qui, pour impressionner un petit peu la famille, a créé un genre de radar qui envoie un signal dans le Quantum Realm qu'on a découvert, justement, dans Ant-Man and the Wasp. C'est là qu'on a retrouvé la mère de Hope dans le Quantum Realm, pour ceux qui se souviennent du film. Donc, elle crée un genre de radar qui envoie un signal vers le Quantum Realm, qui nous retourne le signal avec de l'information. Et avec ça, elle est capable de construire une genre de map du Quantum Realm et étudier ce monde-là en sécurité. Cependant, il arrive quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose dans le Quantum Realm intercepte le signal et amène toute la famille qui était réunie à ce moment-là lors du dévoilement de la machine. Ça les amène tous dans le Quantum Realm à nouveau. Et là, ils se retrouvent prisonniers là-dedans et ils doivent trouver un moyen de sortir de là. Ils découvrent justement qu'il y a de la vie dans le Quantum Realm. Ils découvrent que le personnage de Michelle Pfeiffer, son nom est Janet Van Dyne, qui est l'original de Wasp, finalement n'avait pas passé tout son temps perdu toute seule. Elle a rencontré plusieurs personnes et elle a rencontré Kang, et c'est de Kang qu'elle a peur, et c'est là que vraiment tout s'enchaîne à partir de ce moment-là. Donc en gros, c'est vraiment ça l'histoire du film. Ils sont pris dans Quantum Realm, ils rencontrent Kang le Conquérant, ils doivent se sauver, et voilà. Donc histoire très simple, relativement très facile à comprendre également. C'est plus tout ce qui entoure le personnage de Kang qui est peut-être un petit peu plus complexe, surtout vers la fin où là on nous présente quelque chose d'autre. Faut rester attentif, faut bien écouter. Et si je peux apporter un conseil à ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui veulent aller le voir, peut-être écouter les derniers épisodes de la série Loki où on nous présente un personnage, He Who Remains, qui est en fait un variant de Kang et qui nous explique vraiment quelque chose qu'on savait important à l'époque, mais qui prend vraiment toute son importance avec ce film-là. Donc, petit conseil d'amis, peut-être écouter les deux derniers épisodes de la série Loki avant d'aller écouter Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Je pense que ça va vous remettre quelques trucs en place et que vous allez peut-être mieux comprendre également ce qui se passe, surtout vers la fin du film. Je n'ai rien divulgué, évidemment, encore moins la fin. Visuellement, énormément de couleurs. Très, très, très coloré comme film. Une photographie super belle, mais c'est de l'écran vert. Donc, c'est du CGI non-stop. Je vous dirais que c'est peut-être 85% CGI, 15% pas CGI. Donc, ça aussi, c'est un point que les critiques n'ont pas apprécié. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est ce que je m'attendais. Je savais que ça allait être ça. Et honnêtement, je ne suis pas un fan de films 3D. J'ai vu le film en 3D et ça ne m'a pas dérangé, justement parce que c'était tellement CGI que ça paraissait bien sur la lunette 3D, ça sortait bien. J'ai pas eu de maux de cœur, j'ai pas eu mal à la tête. Ça s'est bien écouté, même en 3D. Donc, oui, c'est très coloré, oui, ça bouge beaucoup, mais c'est bien fait. C'est assez bien fait, justement, pour pas que ça te donne mal au cœur, pour pas que ça donne mal à la tête. Donc ça, pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une musique, encore une fois, très marvelesque, avec le thème de Ant-Man qu'on connaît bien, qui revient ici à l'occasion de temps en temps. Et un humour quand même encore très présent, mais peut-être un petit peu moins présent que le reste des films. J'ai écouté le film avec mon collègue Poussin, qui m'a fait le commentaire qu'il avait l'impression d'écouter un film à la guerre des étoiles. Et je dois lui donner, il a un point. On dirait un mix entre Ant-Man et la guerre des étoiles, avec quelques petites touches ici et là, de Thor Ragnarok peut-être, peut-être même un petit peu Gardien de la Galaxie, même si Poussin n'est pas d'accord là-dessus. Je trouve que c'est un genre de mélange de tout ça. Un monde un peu bizarre, avec des créatures un peu bizarres, mais très sympathiques également. C'est là que j'amène un petit peu Thor Ragnarok et Gardien de la Galaxie aussi. C'est un petit peu un mix de tout ça. Donc, si vous êtes un amateur de la guerre des étoiles en partant, vous allez probablement apprécier le film également. Si vous détestez le CGI, si vous détestez les films de super-héros, ben vous savez très bien que vous n'irez pas voir ce film de toute façon. Et si vous allez voir le film juste pour mal critiquer le film, évitez donc d'aller le voir tant qu'à ça. T'sais, au lieu de donner une mauvaise note à un film parce que vous saviez d'avance que vous alliez pas aimer ça, allez donc pas le voir, sauvez-vous du temps, allez voir un film que vous allez apprécier à la place, ça va sauver du temps à tout le monde. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire, honnêtement, pour Ant-Man and the Wasp. Si vous êtes des fans de Marvel, si vous êtes des fans du premier et du deuxième, si vous aimez l'humour, si vous aimez la comédie, si vous aimez l'action, le super gros visuel, vous allez apprécier le film, je crois. C'est également le premier film du MCU depuis toutes les aventures qui ont amené à Thanos. C'est la première fois que j'écoutais ce film-là et que je finissais le film en me disant « Ok, wow, j'ai hâte au prochain film ». Là, tu le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il nous présente justement des petits teasers de « Voici ce qui s'en vient. Restez à l'écoute pour de plus en plus d'informations. » C'est ce que j'aimais des premières phases et il nous le ramène, ça. C'est quelque chose qui a complètement été oublié dans la dernière phase avec toutes les séries et tous les films. Stand-alone, si on peut appeler ça de même. Ou, à la fin du film, même les post-credit scenes ne nous amenaient rien de nouveau pour qu'on veuille aller voir les prochains films. Celui-ci nous amène quelque chose enfin qui nous donne le goût de continuer d'écouter le MCU ou d'aller voir les prochains films et d'écouter les prochaines séries. Ça, c'est très apprécié. Et Kevin Feng, il l'a dit, la dernière phase a été un peu du grand n'importe quoi. Il remet tout ça en place et il ramène ce que les fans avaient apprécié des premières phases. Donc, Ant-Man and the Wasp, ma note à moi, c'est quand même un bon solide 85, donc 8.5 sur 10. Je me colle beaucoup à la critique de l'audience sur Rotten Tomatoes. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'irai peut-être pas le revoir en salle, mais quand il va sortir sur Disney+, c'est sûr et certain que je vais le réécouter. Donc, déjà ça en partant, ça mérite une bonne note. Donc, 8.5 sur 10 pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui est disponible en salle présentement. Donc, merci d'avoir été là pour cette écoute de notre capsule express. Prochain épisode, notre épisode mensuel disponible le 1er mars. Épisode spécial international présenté par ma collègue Maryse. On va vous présenter deux séries internationales, donc une série française et une série espagnole, ainsi qu'un film indien, bollywoodien, devrais-je même dire. Donc, restez à l'écoute. Venez nous écouter le 1er mars pour notre épisode mensuel spécial international. Je pense qu'on va avoir de très bonnes discussions entre moi et Maryse pour ce type de film et de série télé. Donc, j'espère que vous allez être à l'écoute. Sinon, ça complète cette semaine. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook La Critique de Yugi pour savoir justement quand est-ce que les épisodes sortent et ce qui s'en vient. Et de temps en temps, on vous envoie des petites informations supplémentaires sur ce qui se passe un petit peu dans le monde du cinéma et de la série télé. Donc merci d'avoir été là. On se revoit le 1er mars, dans le fond, pour notre épisode mensuel de La Critique de Yugi. Portez-vous bien tout le monde, faites attention et restez à l'écoute. Bye!